Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.
Retrouvez-nous sur 96.2 FM
et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales.
Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la radio Prévert pour parler de Donald Trump et des États-Unis.
Donald Trump.
Démocratie américaine.
États-Unis. Démocratie, notre monarchie.
Raciste, fasciste, sexiste.
Eh bien, pendant sa campagne de 2024, Trump a souvent démarré ses discours sur YMCA, alors que cette musique a été utilisée comme symbole de liberté et de fierté des homosexuels pendant les années 80. Voilà pourquoi on en parle, parce qu'en fait, Trump s'en fiche de l'image et qu'il veut montrer qu'il fait en quelque sorte ce qu'il veut. Eh bien, on va parler des États-Unis parce que ils ont mené le monde libre pendant la guerre froide et aujourd'hui encore, ils restent la seule superpuissance. Une superpuissance qui est censée défendre les valeurs et le respect de la démocratie libérale. Mais en vérité, depuis l'arrivée de Donald Trump, tout cela est remis en question et la démocratie libérale elle-même semble de plus en plus fragilisée. On va d'abord voir qui il est, puis comment son parcours peut montrer un recul de la démocratie libérale. On commence tout de suite avec la présentation de Donald Trump avec Lola et Emile. C'est à vous.
Oui, merci Enzo. Tout d'abord, alors Donald Trump a été traité de pas mal de choses, hein, de raciste, de fasciste ou de sexiste. Mais la réelle question qu'on se pose, c'est qui est-il vraiment ? Pour répondre à cette question, Émile et moi sommes là pour vous présenter cet homme à la tête de la plus grande puissance du monde, mais qui ne cesse de faire parler lui. Et le reste de notre magnifique groupe d'AGGSP vous racontera et expliquera les nombreuses choses qu'il a faites et qu'il continue de faire qui sont sujettes à polémique. Émile, pourquoi ne nous présentes-tu pas ce président plus que controversé ?
Oui, en effet, Donald Trump, de son vrai nom Donald John Trump, est né le 14 juin 1946. Il est père de 5 enfants qu'il a eu avec 3 femmes différentes. C'est un ancien homme d'affaires à la tête d'un empire immobilier prestigieux, diplômé de l'Université de Pennsylvanie. Il a été élu 2 fois président, en 2016 et 2024, 2 mandats remplis de scandales, dont un toujours en cours. Trump ne cesse de faire parler de lui, plus souvent en mal qu'en bien. C'est un homme d'affaires et médiatique qui, grâce à un pacte avec son avocat conservateur, lui permettra de gagner en pouvoir. Une histoire folle expliquée dans le film The Apprentice, dont Donald Trump critiquera vivement l'existence. Il a également été candidat aux primaires républicaines en 1996, une information assez méconnue. Donald Trump, cet homme pourtant riche mais qui ne peut accepter la défaite. Lola, pourquoi ne nous raconterais-tu pas le caractère et les différents scandales de ce président ?
Mais bien sûr, Émile. Je suis toujours heureuse de parler de ce président à nombreuses facettes et de ses scandales. Ce n'est pas comme s'il n'y en avait pas un tous les jours de toute façon. Avec Trump, c'est simple, on ne se repose jamais. Dès son plus jeune âge, son caractère capricieux oblige ses parents à l'envoyer dans une école militaire. Il est également très violent dans un bon nombre de ses prises de parole contre les minorités. N'oublions pas son narcissisme, qu'il ne cache pas en s'entourant principalement d'influenceurs qui le soutiennent et en nommant dans son gouvernement des personnes qui l'idolâtrent sans aucune compétence politique.
Trump est également connu pour ses nombreux scandales judiciaires, comme le fait qu'il aurait acheté le silence d'une star du porno avec l'argent de sa campagne, ou encore qu'il a été reconnu coupable de falsification de documents, ou même de 2 agressions sexuelles sur une femme, et de sa possible culpabilité dans l'affaire Epstein. Il a aussi été victime de 2 tentatives d'assassinat durant ses campagnes.
Ces actions montrent que les États-Unis, autrefois une démocratie et un pays libre, subissent un recul de la démocratie depuis l'arrivée de Trump et de ses multiples actions. Merci de nous avoir écoutés, on laisse maintenant la place au prochain sujet.
Merci Lola, merci Émile. Maintenant qu'on voit mieux qui est Donald Trump, on revient sur un moment clé de sa carrière politique, et c'est l'élection de 2021, et son refus d'accepter le résultat. Sarah et Clara nous expliquent comment ça s'est passé.
Après les élections présidentielles de 2020, Donald Trump refuse de reconnaître sa défaite et répète partout qu'une fraude massive a eu lieu. Cette contestation crée immédiatement une tension politique très forte dans le pays.
Oui, tout à fait. Et pourtant, les premiers recomptages et les audits réalisés dans plusieurs États confirment les résultats. Les responsables électoraux annoncent qu'ils n'ont trouvé aucune preuve de fraude généralisée.
Exactement. Et pendant ce temps, l'équipe Trump dépose des dizaines de recours devant les tribunaux pour tenter de contester le vote. Mais la grande majorité de ces recours sont rejetés par faute d'éléments solides. D'ailleurs, Clara, est-ce que la plupart de ces recours ont été refusés ?
Oui, tout à fait, Sarah. La grande majorité l'a été. Mais un épisode a particulièrement marqué les esprits, l'appel au secrétaire d'État de l'État de Géorgie, Brad Raffensperger, et républicain. Cet échange montre une pression directe sur un responsable chargé de certifier un résultat officiel.
Dans cet appel, enregistré le 2 janvier 2021, Trump demande à Raffensperger de trouver 11 780 votes, c'est-à-dire exactement de quoi dépasser la marge de victoire du camp démocrate dans cet État qui attribue 16 grands électeurs.
Raffensperger lui explique que les chiffres ont été contrôlés plusieurs fois et qu'ils sont corrects. Malgré cela, Trump insiste pour que le total soit modifié, ce qui rend l'échange particulièrement troublant.
C'est vrai, Clara. Et c'est cette précision qui fera de l'appel une pièce importante dans les enquêtes menées par la suite par le FBI. Contrairement au discours public vague, ici, la demande est claire, ciblée et enregistrée.
Pendant ce temps, dans plusieurs États, apparaît aussi l'initiative des faux grands électeurs. Dans plusieurs États, des groupes pro-Trump rédigent des faux certificats affirmant représenter les électeurs officiels, bien qu'ils n'aient aucune reconnaissance légale.
Et ces documents sont utilisés pour tenter de créer une confusion lors de la certification des résultats. L'objectif est de donner l'impression qu'il existe deux listes possibles de grands électeurs. Est-ce exact que ces certificats n'avaient aucune valeur légale ?
Eh bien oui, Sarah, c'est exact. Et tout cela mène au 6 janvier 2021, jour où le Congrès doit certifier la victoire de Biden. Le matin même, Donald Trump prononce un discours lors du rassemblement « Stop the Steal » avant que des milliers de ses partisans ne se dirigent vers le Capitole pour protester contre les résultats.
Une partie d'entre eux parvient à pénétrer dans le Capitole, interrompant la séance pendant plusieurs heures. Cette intrusion marque un tournant et choque profondément l'opinion publique.
Et dans ce contexte, l'appel de Georgie prend une importance particulière. Il apparaît comme la tentative la plus directe d'obtenir une modification chiffrée d'un résultat certifié.
Et comme il est enregistré, il devient un élément utilisé dans plusieurs enquêtes pour comprendre les pressions exercées après l'élection.
Finalement, l'ensemble de ces événements montre comment les institutions américaines de 2020 ont su résister à la pression de Trump 1, contrairement à aujourd'hui où les institutions semblent davantage mises à l'épreuve par l'influence exercée par Trump 2.
Chakadi, la radio du lycée Prévert.
On vient d'entendre comment Trump a mis en doute le résultat de 2020. Cette contestation ne reste pas seulement dans les discours, elle nous mène au 6 janvier 2021, jour de l'assaut contre le Capitole à Washington. Clara, Christian, Emma et Elisa reviennent maintenant sur cette journée qui a marqué l'histoire américaine.
Nous avons tous vu les images qui ont fait le tour d'Internet le 6 janvier 2021. Il y a bientôt 5 ans, dans le contexte de l'élection du président des États-Unis, Trump incite ses sympathisants radicaux à s'emparer du Capitole car Biden a reçu plus de votes. Mais revenons-en au moment des faits. 2 mois avant, en novembre 2020, Trump perd les élections présidentielles et dit qu'elles sont corrompues. Mais comment Trump a-t-il pu convaincre un grand nombre de personnes que les élections étaient truquées ?
Alors attention Elisa, ce n'est pas l'entièreté du peuple qui l'a suivi, mais seulement une minorité dans les trois principaux groupes, les Trumpistes, les Housekeepers et les Proud Boys, qui sont d'ailleurs tous des groupes d'extrême droite. Ils sont notamment impliqués dans des actes de violence aux États-Unis. Mais dans tout ça Emma, quelle est la responsabilité de Trump ?
Quelques heures avant le drame, Trump donne un discours au parc The Ellipse qui se situe devant le Capitole. Dans son discours, il incite la foule à marcher sur le Capitole, dans lequel les députés effectuent le dépouillement des scrutins. Donald Trump déclare dans son discours que les citoyens devraient se battre de toutes leurs forces et dit « Vous ne reprendrez jamais notre pays si vous êtes faible. Vous devrez montrer de la force et vous devrez être fort. » Il dit également qu'ils se battront tous ensemble, mais comble de malchance, il part en voiture juste après son discours. La foule, excitée par la déclaration, part en direction du Capitole.
Après le discours de leur candidat adoré et redouté, le groupe d'extrémistes franchit les premières barrières de sécurité du Congrès. Pendant plusieurs heures, les agents de sécurité ainsi que les policiers résistent contre les émeutiers et utilisent des gaz asphyxiants, mais pas d'armes à proprement parler. Paradoxalement, des groupes d'extrême droite lancent des projectiles de tout genre. Après avoir franchi les défenses de certains côtés du Capitole, les émeutiers rentrent et cassent les vitres. Certains plus pacifistes se prennent en photo devant les statues et les tableaux. Au même moment, les membres du Congrès sont exfiltrés par des issues de secours.
Dans les 800 personnes à l'intérieur du bâtiment, 143 ont été blessés, mais certains plus gravement que d'autres. En effet, le bilan humain est de 5 morts, dont un policier. Une manifestante a été abattue par un agent en essayant de franchir les portes, et les 3 autres ont succombé à leurs blessures à l'hôpital.
Plus tard, cette manifestation a été qualifiée de tentative de coup d'État, d'insurrection ou d'acte de terrorisme intérieur. Les partisans de Donald Trump ont été jugés par la justice américaine et la peine la plus haute est de 22 ans de prison ferme accordée à Henrique Tarillo, ancien leader du groupe Proud Boys, en français « Garçon fier ». Cependant, lorsque Trump est réélu, tous les participants ont été graciés. De surcroît, les familles des victimes ont été indemnisées. Mais comment la population a vécu cette tentative de coup d'État, Elisa ?
Le Capitole, se situant dans la capitale Washington DC, est un lieu important pour la démocratie car il est le siège du Congrès et donc le cœur démocratique des USA. Son attaque a été vue comme une grande menace pour la démocratie américaine. D'autre part, cet épisode a légitimé l'usage de la violence en politique et Donald Trump a donc été jugé par la justice fédérale pour complot contre les États-Unis, mais les poursuites ont été abandonnées lorsqu'il a été réélu en novembre 2024. De nos jours, les opposants de Trump ne sont plus jugés avec objectivité et la justice américaine n'est plus impartiale. La démocratie aux États-Unis commence à reculer et reculera encore plus si le peuple ne réagit pas. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Pendant que la justice américaine continuait de juger des participants du 6 janvier, Donald Trump préparait déjà son retour sur le devant de la scène. Mais entre le Trump de 2016 et le Trump d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? On va demander à Mathilde, Anouk, Alice et Lola qui comparent le Trump première version qu'on appellera Trump 1 et le Trump nouvelle version qu'on appellera Trump 2. Je vous laisse parler.
Pour commencer, revenons sur l'ascension politique de Donald Trump. Élu président des États-Unis en novembre 2016, puis de nouveau en novembre 2024. Oui, malgré une petite pause de 4 ans pendant que Joe Biden prenait la Maison-Blanche, Trump revient, comme un film qui n'attendait pas de suite, et pourtant, le voilà, Trump 2.0. Il devient alors le second président de l'histoire américaine à exercer deux mandats non consécutifs depuis Grover Cleveland en 1885 et 1893.
Alors Mathilde, d'après vous, est-ce qu'on a affaire à un nouveau Donald Trump, genre mise à jour 2024?
Alors, c'est difficile de dire si oui ou non c'est un nouveau Donald Trump, mais une chose est sûre, il n'a pas passé 4 ans à faire du golf, enfin pas que. Il a beaucoup travaillé sur sa campagne entre 2021 et 2024. Cette période n'a pas été un temps de retrait pour Trump, mais plutôt une phase de restructuration politique, médiatique et stratégique. Pendant que Joe Biden est au pouvoir aux États-Unis, Trump organise meeting sur meeting pour être sûr qu'on ne l'oublie pas. Spoiler alerte, personne ne l'a oublié. Il aborde un nouveau programme et de nouveaux discours. En gros, il fait une préparation stratégique pour mieux attaquer en 2024.
Mais Mathilde, tu ne parles pas de ces méthodes plus modernes?
Ah oui, en effet, je te laisse leur expliquer Lola.
Merci. Dans sa nouvelle campagne, Donald Trump intègre l'utilisation intensive des médias numériques, comme les réseaux sociaux, afin de toucher les électeurs des états charnières, c'est-à-dire là où le vote est décisif.
Il me semble que Donald Trump change son entourage aussi, n'est-ce pas Anouk?
Oui, en effet Alice, pour sa nouvelle campagne électorale, Trump décide de faire du changement dans ses alliés. On retrouve aujourd'hui un entourage qui a clairement évolué. Bonjour une nouvelle génération de stratèges politiques. Plus disciplinés, plus dévoués, mais aussi de figures influentes du parti républicain qui voit en lui le moteur du mouvement conservateur. On y trouve des conseillers très loyaux, des élus qui portent sa ligne politique, mais aussi des spécialistes de communication, de réseaux sociaux et de campagne électorale. En bref, une équipe qui carbure.
Mais qu'est-ce que ce changement d'entourage apporte à Donald Trump ?
Eh bien, beaucoup plus qu'on ne le pense. Ce changement d'entourage est loin d'être anodin pour Donald Trump. Avec de nouveaux conseillers, plus dociles et plus stratégiques, il adapte son discours aux enjeux d'aujourd'hui et renforce son influence dans le parti. Son cercle est plus loyal, plus organisé et ça lui permet d'être plus efficace politiquement que lors de son premier mandat.
Finalement, il y a eu pas mal de changements et de nouveautés pour Donald Trump, n'est-ce pas Alice ?
En effet, entre son premier passage à la Maison-Blanche et son retour au pouvoir, plusieurs choses ont changé pour Donald Trump. D'abord, le pays n'est plus le même. L'économie, l'immigration et la scène internationale ont beaucoup évolué pendant Joe Biden, ce qui l'oblige à adapter ses priorités. Ensuite, Trump revient avec une image différente, plus expérimentée, plus sûre de sa stratégie et soutenue par un parti républicain profondément marqué par son influence. Enfin, le ton a changé. Son discours est plus direct, plus offensif et son entourage renouvelé lui permet d'être plus discipliné et plus organisé que pendant sa première élection.
Mathilde, parle-nous de MAGA.
MAGA, pour Make America Great Again, ce n'est pas un simple slogan. C'est devenu le club VIP de Donald Trump. Le mouvement défend une ligne nationaliste, anti-immigration et très conservatrice. Et il est porté par une base électorale d'une fidélité à toute épreuve, presque digne d'un fan club officiel.
Il faut quand même rappeler que Trump a déclaré ne pas avoir eu le temps de faire ce qu'il voulait lors de son premier mandat. Donc il a fallu profiter du mandat de Biden pour se préparer d'arrache-pied sur sa prochaine campagne présidentielle.
Eh bien, merci pour ces informations et merci à Trump d'être une source inépuisable de rebondissements.
Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.
On l'a entendu, son style politique a évolué. On va maintenant s'intéresser à sa manière d'utiliser la liberté d'expression. Lola, Elena vont nous expliquer ses stratégies.
Merci Sarah. En effet, aux États-Unis, la liberté d'expression est considérée comme un droit fondamental. Elle est protégée par le premier amendement de la Constitution, ce qui signifie que l'État ne peut presque jamais censurer une opinion, même si elle choque ou dérange.
Oui, cette liberté est très large. Le gouvernement n'a pas le droit d'interdire une idée simplement parce qu'elle est impopulaire. Cela crée une culture où chacun peut s'exprimer librement, critiquer le pouvoir, les institutions ou le responsable politique.
Cette liberté a un impact très fort sur la population américaine. Les citoyens se sentent légitimes pour donner leur avis, débattre publiquement et participer à la vie politique. Les discussions sont souvent très vives, notamment sur les médias et sur les réseaux sociaux.
C'est vrai, et cela favorise un débat public intense. Les Américains défendent fortement leur droit à la parole, même lorsqu'il s'agit de critiquer le gouvernement ou les décisions politiques. Cette liberté renforce le sentiment de démocratie.
Mais il faut aussi parler des limites. Comme l'État intervient très peu, des discours haineux peuvent circuler librement. Il y a aussi beaucoup de fausses informations qui influencent l'opinion publique et peuvent manipuler les citoyens.
On le voit bien aujourd'hui, les débats deviennent très polarisés, avec une forte division en différents groupes politiques ou sociaux. La liberté d'expression, qui est censée rassembler, peut parfois accentuer les tensions.
Malgré cela, elle reste un pilier de la démocratie américaine. La presse peut enquêter librement, révéler des scandales et dénoncer des injustices, comme les discriminations ou les atteintes aux droits civiques.
Les citoyens peuvent aussi manifester, protester et contrôler le pouvoir. La liberté d'expression permet donc de surveiller les institutions et d'empêcher certains abus.
Les États-Unis critiquent souvent l'Europe sur cette question. Selon eux, l'Europe limite trop la liberté d'expression avec des lois contre les discours de haine, le négationnisme, l'injure ou la diffamation.
En Europe, la liberté d'expression est plus encadrée. Elle est souvent équilibrée avec la dignité humaine, le respect des autres et la protection de certains groupes vulnérables.
Pour les Américains, cette vision est problématique, car ils estiment que la liberté d'expression doit être le moins contrôlée possible par l'État, même si cela comporte des risques.
Lors de la grande messe américaine des conservateurs, Steve Bannon a effectué un salut nazi qui n'a pas été sanctionné au nom de la liberté d'expression américaine.
Oui, en effet Lola, mais la liberté d'expression n'est pas si totale, puisque Donald Trump interdit d'avoir des propos contraires à ses idées, notamment sur Charlie Kirk.
Cette liberté d'expression, soi-disant totale, a des limites et a des répercussions même jusqu'en France. Une sage-femme a vu ses comptes Instagram et Facebook supprimés lorsqu'elle a partagé son avis sur l'IVG lors d'un reportage de France 3.
Finalement, la liberté d'expression aux États-Unis peut être à la fois une force démocratique majeure, mais surtout une source de tension.
Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.
Quand on parle de liberté d'expression avec Donald Trump, on pense aussi à la façon dont il parle des journalistes, entre les accusations de fausses informations, les critiques très fortes. Sa relation avec la presse est souvent conflictuelle en vérité. Donc je vais laisser Sarah, Jade, Manon et Maureen nous présenter ce rapport tendu entre Trump et les médias.
Bonjour à toutes et à tous. Comme vient de le dire Enzo, nous vous emmenons découvrir les médias qui sont censurés aux États-Unis par Trump.
Tout d'abord, la liberté de la presse, composante essentielle de la liberté d'expression et pilier fondamental de la démocratie, garantit à chaque citoyen la possibilité de s'exprimer, de produire et de diffuser des informations dans le respect des lois en vigueur selon le ministère de la Culture. Elle est aussi un droit qui est protégé par le premier amendement de la Constitution américaine. Cette liberté permet aux journalistes de diffuser certaines informations et d'exprimer leur opinion. Malheureusement, elle est réduite à néant par Donald Trump quand elle évoque des sujets tels que l'écologie, l'égalité des sexes et des genres, l'avortement, les injustices sociales, l'immigration et surtout les critiques le concernant.
Pourtant, c'est l'un des principes fondamentaux de la démocratie.
Vous nous direz, mais comment s'y prend Trump pour réduire cette liberté dans les médias ?
Donald Trump avec les moyens d'information. Il a souvent accusé certains médias de mentir ou de diffuser des fake news, notamment sur les sujets de crise sanitaire. Il a minimisé la crise de la Covid.
99% des cas sont totalement inoffensifs.
Et a nié des ingérences russes en les présentant comme des
histoires inventées
par ses adversaires politiques, malgré le résultat des enquêtes officielles. Il a même parfois refusé de répondre aux questions de certains journalistes, comme le syndicat de médias
Associated Press.
Il a mis fin à l'accès de la Maison-Blanche pour différents médias internationaux, pour cause de
questions inappropriées.
Il a même démantelé
l'Agence américaine pour les médias mondiaux.
Et Donald Trump contredit tous les articles de presse qui sont contre ses opinions, comme le New York Times, CNN et plein d'autres.
À présent, il s'entoure seulement d'influenceurs tels qu'Aden Ross, Laura Loomer, autrefois Charlie Kirk qui a été assassiné.
Si vous ne le savez pas, Donald Trump a été banni de X, autrefois Twitter, à cause de son soutien patriotique, ses incitations à la violence et surtout à cause de sa responsabilité dans l'assaut du Capitole. À la suite de ce bannissement, il a créé la plateforme Truth Social, mise en marche en 2022. Grâce à ça, il peut y publier librement ses opinions et c'est un exemple concret de détournement des médias puisque la communication politique se fait directement sans filtre journalistique.
Pour conclure, Donald Trump a utilisé des pressions. Il a fait recours à des exclusions et des menaces afin de limiter la liberté de la presse et limiter l'accès des médias, voire supprimer l'opinion publique de certains de ses opposants politiques.
Restez avec nous puisque maintenant nous allons partager avec vous quelques idées de solutions potentielles qui permettraient aux États-Unis de retrouver une véritable liberté de la presse. D'abord, il faudrait donner plus de liberté aux médias tout en interdisant les violences verbales. Ou limiter la censure de certains médias menés par des dirigeants politiques, ce qui permettrait de limiter l'influence politique directe sur les rédactions des médias. Il faudrait également renforcer les protections légales des journalistes, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre en place des règles plus strictes contre les ingérences de responsables politiques dans les décisions éditoriales.
Merci pour votre attention.
Jacadi, c'est aussi la plateforme en ligne jacadi.org. Retrouvez toutes les productions des élèves engagés dans l'atelier média. Journal lycéen, exposition numérique, double page avec l'éveil de Pont-Audemer et bien sûr, toutes les émissions de radio. À bientôt sur jacadi.org.
Dans cette première partie, on a vu comment Trump bouscule la démocratie américaine de l'intérieur, hein, le refus de reconnaître une défaite, son rôle dans l'assaut du Capitole, les attaques répétées contre certains médias. Mais Donald Trump ne se limite pas à la politique intérieure des États-Unis et ses décisions et ses déclarations ont aussi des conséquences dans le reste du monde. On ouvre maintenant la deuxième partie, Donald Trump sur la scène internationale, et je te laisse maintenant la parole, Sarah.
Merci Enzo. Eh bien, pour commencer cette partie internationale, on part à la frontière américaine. Sous Trump, la politique migratoire devient un des symboles de sa présidence. Et la question du contrôle des frontières reste au centre de ses discours. Lola et Luna vont nous présenter le service de l'immigration et des douanes.
L'ICE, l'US Immigration and Customs Enforcement, est une agence fédérale du département de la sécurité intérieure des États-Unis chargée de faire appliquer les lois sur l'immigration et les douanes. La loi Patriot Act de 2001, après les attentats du 11 septembre 2001, a contribué à la réorganisation de la sécurité nationale qui a abouti à la création de l'ICE en 2003.
L'ICE a pour mission de protéger le pays contre la criminalité transnationale, l'immigration illégale et les menaces pesant sur la sécurité nationale. Elle possède également le pouvoir d'interroger ou d'arrêter des étrangers soupçonnés d'être entrés illégalement aux États-Unis en les transférant vers des centres de détention dans le but de les expulser.
Les valeurs des États-Unis sont représentées avec plusieurs symboles sur le logo de l'ICE porté sur l'épaule des agents. Le logo comporte un aigle, le symbole des États-Unis, représentant le pouvoir, la vigilance et la liberté. On y retrouve les couleurs du drapeau, bleu, rouge et blanc, ainsi qu'un bouclier symbolisant l'autorité du pays.
Donald Trump, président des États-Unis, adopte une politique migratoire particulièrement stricte. Le 4 juillet 2025, la loi One Big Beautiful entre en vigueur. Elle prévoit le financement massif de nouveaux centres de détention, d'opérations, d'expulsion et du recrutement d'un grand nombre d'agents supplémentaires. L'ICE devient ainsi l'agence fédérale la mieux financée de l'histoire des États-Unis.
Cela montre que le gouvernement soutient fortement l'ICE, non seulement en la finançant, mais aussi en renforçant ses moyens technologiques. Il a notamment supprimé les applications destinées à localiser les agents de l'ICE qui permettaient aux migrants de s'en cacher.
On observe par ailleurs une augmentation d'interventions musclées dans tout le pays menées par les agents de l'ICE, souvent au mépris des droits des personnes arrêtées, certaines pratiques étant considérées comme portant atteinte à la Constitution.
Les agents pratiquent le délit de faciès et arrêtent des personnes parfois installées depuis longtemps sur le pays. L'agence a d'ailleurs été régulièrement critiquée par de nombreuses organisations indépendantes de la société civile, plus couramment appelées ONG, en raison de méthodes jugées agressives.
Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.
On vient de voir la politique migratoire sous Donald Trump, on change maintenant d'échelle direction l'Ukraine et Donald Trump commente régulièrement la guerre en Ukraine, hein. Il a promis durant sa campagne une issue rapide, en moins de 24 heures, disait-il, mais cela semble plus compliqué que prévu. Hein. Lou, Roman, Camille et Johan, je vous invite à parler de la position de Trump face au conflit en Ukraine qui est très intéressante.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on part direction Washington pour aborder un sujet explosif. Pas littéralement, rassurez-vous. On parle de la position de Donald Trump sur la guerre en Ukraine. Ces dernières semaines, c'est devenu encore plus intense. Washington envoie des émissaires discuter avec Moscou, des documents de plans de paix circulent et l'Europe observe ça comme si elle regardait une finale de Coupe du Monde. Trump assure vouloir arrêter la guerre en un rien de temps et avoir le contrôle sur la situation. Mais pendant ce temps-là, la Russie continue d'avancer ses pions sur le territoire ukrainien. Pour en discuter, j'ai avec moi trois intervenantes. Joanne, que l'on consulte plus que Google, Camille, qui nous détaillera en quoi le plan de Trump peut paraître séduisant, et Romane, qui nous expliquera pourquoi ce plan pourrait faire grincer pas mal de dents. Allez, attachez vos ceintures, on part pour un tour dans la géopolitique vers ce montagne russe. Joanne, à toi de nous éclairer.
Merci Lou. Alors, pour résumer la position de Trump, il faut se rappeler de certains éléments. Depuis plusieurs années, Trump estime que les États-Unis financent trop massivement l'aide à l'Ukraine, tandis que l'Europe n'en fait pas assez. Il considère que l'Amérique ne doit plus être le banquier du monde. Trump dit aussi qu'il pourrait régler le conflit en 24 heures, grâce à des négociations entre Kiev et Moscou. Bon, on ne sait pas s'il parlait en heure réelle ou en heure Trump, mais globalement, ça reste dans sa logique « America first », c'est-à-dire « les autres, débrouillez-vous un peu ». En résumé, moins d'aide, plus de pression diplomatique et l'idée d'une solution plus rapide, même si on ne sait exactement comment. Mais Trump propose aussi un plan de paix où l'Ukraine devrait reconnaître l'emprise russe sur certains territoires ukrainiens, comme la péninsule de Crimée, ainsi qu'accepter une armée plus réduite. Ce plan a provoqué de fortes réactions en Europe. Beaucoup d'alliés estiment qu'on ne peut pas construire une paix durable en sacrifiant l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il y a cependant un plot twist. En septembre 2025, Trump affirme soudain que l'Ukraine pourrait en fait récupérer tout son territoire. La diplomatie avance, mais personne ne sait si c'est vers un accord solide ou une glissade incontrôlée.
Des millions de merci, Joanne. Alors moi, je vois plutôt ce qui peut sembler positif dans la position de Trump. Pour ses partisans, l'idée est assez simple. Ça fait des années que la guerre dure, ça a un coup sur la vie et tout le monde est fatigué. Donc au lieu de regarder les conséquences de ce conflit et de prier pour que ça s'arrête, Trump, lui, pense qu'il faut arrêter d'être spectateur et essayer d'obtenir un accord rapidement. Il dit que ça évitera plus de morts, plus de dépenses et que ça peut calmer la situation. Mais surtout, il rappelle que les États-Unis ne doivent pas tout payer seuls. Pour lui, l'Europe doit vraiment aider et pas seulement dire qu'elle soutient. Peut-être que ça fera du bien au portefeuille américain et que ça remettra un peu d'équilibre. Et puis, on doit le reconnaître, Trump n'a peur de rien. Ni des critiques, ni des Russes, ni des micros ouverts. Et puis bon, on peut dire ce que l'on veut, mais il a quand même survécu à un attentat. Au niveau détermination, il est difficilement égalable.
Je comprends que ça puisse paraître positif, Camille. Mais ce qu'on risque, c'est un accord fait à la va-vite avec des concessions énormes pour l'Ukraine. Affaiblissement militaire, moins de garanties, perte de territoire, malgré l'opposition totale de la population ukrainienne. Une paix trop rapide, c'est parfois une guerre reportée. Et pour l'Europe, ce sera un vrai casse-tête. Si les États-Unis changent de ligne du jour au lendemain, l'OTAN perd en crédibilité. Pas idéal quand on essaie d'éviter qu'un conflit s'étende. Enfin, il y a le risque d'une paix bricolée. On a déjà tous bricolé quelque chose en se disant « ça tiendra ». Sauf que là, si ça ne tient pas, c'est toute la sécurité européenne qui tombe avec. Donc oui, une solution rapide, ça fait rêver. Mais il faut s'assurer qu'on ne signe pas un accord scotché avec du ruban adhésif.
Et voilà, ce débat l'a bien montré. La position de Donald Trump face à la guerre en Ukraine ouvre autant d'espoir que d'inquiétude. Derrière ces promesses de paix anticipée, c'est toute la stabilité de l'Europe et la sécurité de l'Ukraine qui se joue, avec un risque réel de conséquences irréversibles. La situation reste fragile, les tensions internationales sont vives et chaque décision peut faire basculer l'équilibre mondial. Un immense merci à Joanne, Camille et Romane pour leur éclairage et merci à vous d'avoir été à l'écoute.
Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.
Retrouvez-nous sur 96.2 FM et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales.
Après l'Ukraine, on passe à un autre conflit, la situation à Gaza. Les décisions prises pendant sa présidence et ses déclarations récentes pèsent encore dans les débats américains. Sacha et Jules, allez-y, expliquez-nous comment Donald Trump se positionne sur Gaza.
Aujourd'hui, on va parler des positions de Donald Trump concernant Gaza. Le conflit israélo-palestinien est l'un des sujets les plus sensibles du monde et les prises de position des différents présidents américains jouent souvent un rôle énorme. Trump en particulier s'est démarqué par rapport au reste du monde avec ses décisions fortes et parfois très controversées. Jules, quel soutien historique a Trump pour Israël ?
Eh bien, depuis le début du conflit, Trump s'est affiché comme un allié sans équivoque d'Israël, défendant publiquement son droit à se défendre et promettant de soutenir ses actions, y compris militairement si nécessaire. Ce positionnement s'inscrit dans la continuité de son soutien historique. Lorsqu'il a été président pour la première fois, Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, transféré l'ambassade américaine, coupé les aides aux Palestiniens et soutenu l'expansion de la politique israélienne dans les régions. En proposant pour 2025 une prise en main de Gaza par les États-Unis pour reconstruire la zone ou redéployer les populations, Trump ne se contente plus d'appuyer Israël, il se présente comme un acteur direct de la gestion du conflit. Cette posture vise clairement à conforter l'État hébreu tout en réaffirmant un leadership américain fort au Moyen-Orient, avec un rôle central de faiseur de paix ou de garant de la sécurité régionale. Mais Sacha, étant donné que Trump soutient sans réserve Israël, comment expliquer ces déclarations beaucoup plus controversées concernant Gaza ?
Depuis son retour politique en 2024, Trump a enchaîné des déclarations souvent instables et contradictoires sur Gaza. Il a proposé que les États-Unis prennent le contrôle du territoire après la guerre, puis a évoqué l'idée de déplacer une partie des Palestiniens vers d'autres pays, ce qui a provoqué de fortes critiques. Il a aussi défendu un projet surréaliste, transformer Gaza en Riviera du Moyen-Orient, avec hôtels et plages. Il a même publié une vidéo générée par IA pour montrer les accusations d'insensibilité face à la crise humanitaire. Jules, est-ce que tu peux me parler du plan de paix et les réactions ?
Eh bien, ce plan de paix est un plan en 20 points qui a pour objectif de stabiliser la zone et de reconstruire Gaza. Mais cette position déclenche une vive polémique tant aux États-Unis qu'à l'international. Beaucoup dénoncent l'idée comme un risque d'occupation ou de déplacement forcé, contraire au droit international. Même au sein de la politique américaine, certains voient dans ce plan un excès d'intervention, un potentiel engrenage vers un nouveau conflit, voire un fardeau financier et diplomatique pour les États-Unis. En conséquence, le soutien de Trump à Israël, combiné à ce plan radical, polarise l'opinion, alimente les divisions entre interventionnistes et isolationnistes, et pourrait remodeler profondément les alignements diplomatiques et la stratégie américaine au Moyen-Orient.
En résumé, les positions de Trump sur Gaza mélangent projets ambitieux, décisions radicales et déclarations très controversées. Elles ont provoqué des réactions fortes dans le monde entier et continuent d'alimenter le débat sur le rôle des États-Unis dans ce conflit.
Merci Sacha, merci Jules. On vient de parcourir la politique étrangère de Donald Trump, la gestion des frontières, la position sur la guerre en Ukraine, son rôle dans le conflit israélo-palestinien. Malgré les critiques et les nombreux procès qui continuent de faire la une des journaux, il reste une figure centrale de la politique américaine. Et dans notre troisième et dernière partie, on va voir ce qui se passe dès maintenant, actuellement, avec le 47e président des États-Unis. Et pour commencer, on revient directement aux États-Unis, du côté de la culture et de l'école, à la limite de la dystopie bradburyenne. Dans plusieurs États proches de ces idées, certains livres sont contestés ou retirés des bibliothèques. La gestion de la politique de Trump sur ses livres interdits est particulièrement intéressante et je vais laisser Maureen, Sarah, je vous laisse nous expliquer tout simplement tout ça.
Comme vient de le dire Enzo, nous allons parler des livres qui sont censurés aux États-Unis, mais pas seulement depuis Trump, car au final, cela existe depuis plus longtemps que l'on ne croit. Et Donald Trump n'est autre qu'un facteur aggravant de cette chose.
Tout d'abord, comme dit précédemment, il n'y a pas de réelle date pour définir le commencement de la censure aux États-Unis, mais si nous devons vous en citer une, ce serait en 1637, à la sortie du livre « La case de l'oncle Tom », écrit par Harriet Beecher Stowe. Cette œuvre a été interdite dans les États-Unis du Sud pour son propos anti-esclavagiste. Cette censure a été un acte de répression contre les idées de liberté et d'égalité pour les Noirs américains. Après la Révolution et la Constitution, c'est à ce moment-là que nous pouvons dire que la censure a commencé aux États-Unis, juste avant la guerre de sécession.
Si vous nous demandez qui sont les personnes qui employaient des moyens de censure, nous vous répondrons que c'était au départ les coloniaux, mais au fil du temps, ce seraient les commanditaires de l'éducation, par exemple les parents, les bibliothèques, les groupes de pression, l'administration, le gouvernement et autres. D'après l'American Library Association, une association qui a pour objectif de donner aux bibliothécaires et bibliothèques un accès équitable à l'information pour tous, on relevé en 2024 un total de 72% des tentatives de censure faites par des groupes de pression et des élus.
Les livres sont interdits en fonction du sujet qu'ils traitent. Nous pouvons vous citer par exemple les sujets qui ne correspondent pas à l'Amérique soi-disant originelle, c'est-à-dire le livre contredit une part de vrai, comme Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ou bien La servante écarlate de Margaret Atwood, qui lui renvoie à l'image de la femme, pareil à Lait et miel de Rue Picor. Mais bien sûr, nous avons des livres traitant des minorités raciales et des histoires raciales aux États-Unis, comme L'œil le plus bleu de Toni Morrison, qui a reçu le prix Nobel de la littérature en 1993. La couleur pourpre d'Alice Walker. Vous retrouverez la plupart des livres parlant du genre ou de la sexualité qui sont censurés, notamment Heartstopper d'Alice Hausman, Our Story, Our Voice d'Amy Reid, Qui es-tu Alaska de John Green, les livres parlant de politique comme Mouse d'Art Spiegelman, roman graphique qui critique les nazis et l'autobiographie de Martin Luther King. Et tout simplement, les livres de fantasy tels que Harry Potter, La Croisée des Mondes de Philippe Pullman et Le Seigneur des Anneaux de Mark Tolkien. ses trois derniers livres ont été censurés à cause de la pression religieuse.
Comme nous vous l'avons dit, Donald Trump n'est pas le facteur principal de la censure des livres, mais il en est un facteur aggravant puisqu'il soutient fortement cette démarche. Nous n'avons pas de chiffres exacts à vous définir, mais depuis 2021, ce sont déjà près de 23 000 livres censurés, rien que durant l'année scolaire 2024-2025, qui a rajouté 6 870 livres à la liste, et seulement durant l'année 2024, 2 452 titres ont été contestés, une moyenne de 273 livres par an sur la période de 2001 à 2020. Nos sources viennent de PEN America, une association qui défend les droits d'expression à travers la littérature et l'American Library Association, soit un total de plus de 10 000 livres censurés aujourd'hui aux États-Unis. Merci.
Jacadi, la radio du lycée Prévert.
Contrôler certains livres, c'est aussi une façon de limiter certaines idées. Une autre question se pose. Comment se sentent celles et ceux qui s'opposent à Donald Trump? Surtout quand ils critiquent publiquement les juges, les journalistes ou les élus. Ange et Lucien vont nous parler de la peur que ressentent ses opposants.
Effectivement, mais nous allons plus particulièrement parler de ses opposants politiques et de leurs craintes vis-à-vis de Trump et de son administration. Ses principaux opposants sont évidemment les démocrates, mais certains républicains ne sont pas forcément en accord avec le président. Cependant, l'opposition n'est pas vraiment active et ne se montre pas trop malgré une augmentation du nombre d'événements protestaires. Mais alors, pourquoi l'opposition ne se manifeste-t-elle pas plus, Lucien ?
Eh bien, c'est parce qu'ils ont peur de Trump, car ce dernier ne semble pas avoir de limites, tant dans ses idées qu'au niveau administratif, puisque les institutions censées servir de contre-pouvoir pour éviter les dérives autoritaires, comme la Cour suprême, sont dirigées ou composées par des alliés républicains de Donald Trump, comme Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch, Samuel Alito ou Clarence Thomas. Sur les 9 juges de la Cour suprême, seuls 3 sont démocrates et donc potentiellement défavorables à Donald Trump. Ils n'ont donc pas de réel pouvoir, étant en infériorité numérique. Trump a donc peu de limites et son caractère imprévisible renforce la peur qu'il peut inspirer à ses opposants. Par exemple, le 7 juin dernier, il avait pris le contrôle de la garde nationale californienne et l'avait déployé dans Los Angeles en réaction à une manifestation contre les actions menées par l'ICE, la police de l'immigration. Ce qui lui est autorisé sous certaines conditions seulement. Et ça lui a d'ailleurs valu d'être attaqué en justice par l'État californien et son gouverneur Gavin Newsom, un de ses principaux opposants. Cette attaque judiciaire a permis de faire repasser la garde nationale californienne sous contrôle fédéral, du moins jusqu'en février 2026.
Donc cette fois, ses opposants ont quand même réussi à faire changer les choses en faisant appel à la justice.
Certes, mais Trump et son administration ont d'autres moyens de faire pression, notamment sur les employés fédéraux et les fonctionnaires. Cela lui permet des actions plus concrètes. Il a par exemple licencié 4000 employés fédéraux proches de démocrates, sous le prétexte de la crise budgétaire actuelle. Cette vague de licenciement n'était pas la première et ne sera pas forcément la dernière.
Dont il mène une politique assez agressive envers ses ennemis politiques afin d'étouffer l'opposition démocrate et de ne pas les laisser réagir tout en justifiant ses actions par le contexte économique ou social des États-Unis. Il utilise aussi massivement les réseaux sociaux comme Hits ou Truth Social pour attaquer ses opposants, comme avec Henri Cuellar, qu'il a attaqué personnellement et a tenté de décrédibiliser sur Truth Social, après que ce dernier l'ait trahi selon lui. Trump avait gracié ce dernier, mais Henri Cuellar n'a pas changé d'avis politique et est resté démocrate, ce qui n'a pas plu au président. Ses attaques sont donc surtout verbales, mais ses partisans ne se contentent pas toujours des mots face à l'opposition, et Trump légitime ses actions violentes. Il est civil dans tout ça.
Eh bien, on constate que la population manifeste de plus en plus contre Donald Trump et son administration. Mais ces manifestations sont beaucoup plus localisées, plus petites, en plus d'avoir des revendications souvent très précises, ce qui réduit leur impact. Il y a donc une augmentation du nombre de manifestations, mais pas nécessairement du nombre de participants. Ange, peux-tu nous dire pourquoi les républicains n'osent-ils pas s'opposer à lui ?
C'est à cause des élections de demi-mandat. Effectivement, si les républicains déjà élus s'opposent à Trump, ils risquent de perdre en popularité dans leurs États puisqu'ils ont été élus par de fervents partisans de Trump. Par conséquent, ils risquent de perdre leur siège lors de ces élections. Même si certains comme Thomas Massie, figure assez connue de l'opposition républicaine, s'opposent régulièrement dans les urnes, ce dernier reste une exception. La plupart des républicains sont soit inactifs ou alors soutiennent le président Trump. En bref, s'opposer à Trump est assez dangereux pour sa réputation ou même son travail et est parfois inefficace, ce qui permet à Trump de dominer sans trop de résistance.
Après ce regard sur ses opposants, on se penche sur ce que Donald Trump dit de lui-même et de son pouvoir. Certaines de ses déclarations inquiètent une partie des Américains et même au-delà des Américains, les Européens, etc., qui se demandent jusqu'où il pourrait aller s'il voulait rester à la Maison-Blanche. J'invite Sacha et Léane à nous dire ce qu'ils pensent sur une potentielle présidence à vie de Donald Trump.
Depuis quelques semaines, une phrase revient souvent. Donald Trump président à vie. Mais que signifie vraiment ce terme ? D'abord, soyons clairs, légalement, il ne peut pas rester président indéfiniment. La Constitution américaine interdit plus de deux mandats depuis 1951. Alors pourquoi parle-t-on de président à vie ? Depuis son retour à la Maison-Blanche en novembre 2024, Donald Trump a multiplié les décrets, réorganisé l'administration, centralisé le pouvoir et réduit certains centres-pouvoirs. Pour les contracteurs, ses actions pourraient lui assurer une influence massive même après la fin de son deuxième mandat officiel. Ce n'est pas tout. Certains de ses alliés laissent entendre qu'un retour politique après 2028 serait possible.
Qui sont ses alliés les plus influents ?
Ses alliés les plus influents sont Jeff Bezos, Elon Musk ou encore Elise Stefanila. Ces accumulations de pouvoir suscitent de vives réactions dans la société américaine, dans plusieurs villes. Des manifestations appelées « No Kings » ont éclaté ces dernières semaines.
Effectivement, le mouvement américain No Kings, né en 2025 suite aux décisions politiques et l'abus de l'utilisation de la Constitution par Trump. Le peuple accuse le gouvernement de prendre trop de pouvoir et veut rappeler au président que dans une démocratie, personne ne devrait agir comme un roi. Les Américains vont donc manifester. Par exemple, le 14 juin 2025, environ 5 millions de personnes ont manifesté dans plus de 2100 villes à travers les États-Unis, notamment les grandes villes comme New York, Chicago, Washington, etc. À Los Angeles, des milliers de manifestants se sont rassemblés devant un bâtiment politique, dont certains protestant également contre les politiques d'immigration. Cette manifestation a été dispersée par la police qui a utilisé du gaz lacrymogène.
Les villes citées sont des villes démocrates, mais est-ce que ces manifestations ont lieu aussi dans des villes républicaines ?
Oui, le mouvement No Kings a organisé des manifestations dans de nombreuses villes républicaines, notamment Nashville ou Memphis dans le Tennessee. Dans ces manifestations, les gens brandissent des pancartes « Démocratie, notre monarchie ». En résumé, ce mouvement rappelle qu'une démocratie tient grâce aux citoyens qui se mobilisent pour défendre leurs droits. Toutes ces manifestations portent le même message, personne ne doit avoir plus de pouvoir que le peuple. Si le mouvement continue aujourd'hui et dans les années suivantes, c'est parce que les Américains veulent s'assurer que leur pays reste une démocratie.
On a beaucoup parlé des États-Unis vus de l'intérieur, on revient maintenant en France. Comment les Français perçoivent Donald Trump aujourd'hui, entre adhésion, critique ou indifférence ? Colline et Lise sont allées poser la question dans la rue. Place à leur micro-trottoir.
D'après vous, les relations entre les USA et la France sont-elles bonnes ou mauvaises ?
Elles sont fausses pour moi.
Après la récente réélection de Trump, êtes-vous inquiet des conflits dans le monde ?
Oui.
Pensez-vous qu'il mérite le prix Nobel de la paix et pourquoi ?
Bon alors là franchement, qui je suis pour le prix Nobel de la paix, mais ça me paraît évident que non. Enfin, c'est quelqu'un qui est reconnu comme dangereux depuis très longtemps. Il a fait beaucoup parler de lui aux États-Unis dans sa jeunesse, même à l'âge de 20-30 ans, il était déjà très réputé pour sa folie.
Ce dernier propos, qui peut paraître choquant, est à prendre avec du recul. Passons au suivant.
Selon vous, quelle est la plus grande erreur ou réussite de Trump ?
Il profite de son capital pour pouvoir asseoir sa suprématie.
Vous êtes donc contre la politique de Trump ?
Ce sont les Américains, hein, donc on ne peut pas être forcément contre ni pour d'ailleurs. On est très mal placé, mais...
Pensez-vous qu'il donne une bonne ou mauvaise image des États-Unis à l'étranger ?
Actuellement, elle est plus mauvaise que bonne, à mon avis.
Trouvez-vous que les États-Unis respectent les principes d'une démocratie ?
Pas du tout, non.
Trump semble faire peur. D'ailleurs, écoutons ce que les Français pensent des actes de Trump.
Alors, selon vous, quelle est sa plus grande réussite ou sa plus grande erreur ?
Sa plus grande réussite, c'est d'avoir été élu la première fois. Sa plus grande erreur, c'est de s'être représenté.
D'accord. Et donc vous êtes plutôt contre ou d'accord avec la politique générale de Trump ?
La politique générale de Trump, en fait, elle est induite par la politique générale du monde entier. Vous voyez ? C'est pas la parole divine, Donald Trump.
Pensez-vous qu'il donne une bonne ou une mauvaise image des États-Unis à l'étranger ?
Franchement, je pense que c'est 50-50.
C'était un avis plutôt partagé, ce qui ne sera pas le cas pour la question suivante.
Il a envisagé l'idée d'être président à vie aux États-Unis parce que justement il n'y a que deux mandats, il a déjà fait son deuxième mandat. Est-ce que vous êtes pour ou contre ça ?
Contre.
contre.
Pourquoi ?
Parce que pour moi, c'est pas un bon président.
Je suis contre. Il faut plusieurs présidents pour avoir un choix, plusieurs choses à proposer dans la vie.
Trump ne paraît pas répondre aux idéaux d'un président pour les Français. Allez, pour finir, nous avons sélectionné les passages les plus amusants qui parlent de Trump. Bien évidemment, ses propos relèvent de l'humour et ne sont pas le message que nous souhaitons diffuser.
Il a presque 80 ans, il va pas vivre très très longtemps, j'espère.
Donc là, on a vraiment affaire à un fou authentique.
C'est l'extravagance, quoi. Hein.
Oh, c'est pas un bon président.
Je m'en fous complètement. C'est pas la parole divine, Donald Trump.
Merci à vous deux, merci Colline, merci Lise pour ce micro-trottoir des avis français. Pour terminer l'émission, on prend un peu de recul et c'est intéressant de savoir comment on peut qualifier Donald Trump. Alors je pense que déjà en premier lieu, l'émission a permis de nous dire clairement qu'on peut le qualifier déjà de populiste. Et je pense qu'on peut qualifier les États-Unis petit à petit de démocratie illibérale à dérive clairement fascisante. Merci à tous les chroniqueurs et à toutes les chroniqueuses de la classe et merci de nous avoir écoutés pour cette émission spéciale Donald Trump.
Donald Trump.
Donald Trump.
Trump.
Donald Trump.
Trump.
Donald Trump.
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 Démocratie américaine.
États-Unis.
Démocratie, notre monarchie.
Raciste, fasciste, sexiste.
On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.
Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.
Retrouvez-nous sur 96.2 FM et sur jacquesaddy.org.